Hildegarde de Bingen, Scivias, troisième livre, première vision. Et moi, qui ne suis parmi tous les hommes dont je suis issu, qu'une indigne de porter le nom d'homme à cause de la transgression de la loi de Dieu, puisque, appelé à la justice, je vis dans l'iniquité, à moins que, par la grâce de Dieu, qui me sauvera quand même, je puisse encore me considérer comme sa créature. J'ai tourné mes regards vers l'Orient. Et là, j'ai vu un monolithe, extrêmement large et haut, couleur de fer. Au-dessus était une nuée d'une éclatante blancheur, sur laquelle était un trône royal de forme ronde. Sur ce trône, siégeait un brillant jeune homme d'une gloire admirable et d'une si grande clarté que je ne pouvais même distinguer ses formes. Et il avait, comme en son cœur, un limon noir et glaiseux, large comme la poitrine d'un homme et entouré de pierres précieuses et de perles fines. Et de ce brillant jeune homme assis sur le trône, partait un grand cercle d'or, comme l'aurore, qui se portait de l'Orient au septentrion et de l'Occident au midi, se reflétant sans fin à l'Orient sur ce brillant jeune homme. Or ce cercle était à une si grande hauteur de terre que je ne pouvais le comprendre. Il produisait de lui-même une splendeur terrible, couleur de pierre, de ciment et de feu. Se portant vers les hauteurs du ciel dans toute son ampleur, il plongeait de même en dessous, dans les profondeurs de l'abîme, de manière que je ne pouvais en voir la fin. Alors, je vis du secret même de celui qui est assis sur le trône une grande étoile, et avec elle une multitude de brillantes étincelles. Mais, lorsque ces étincelles furent amenées vers le midi avec cette étoile, elles traitèrent d'étranger celui qui était assis sur le trône, et se détournant, elles s'égaraient vers l'Aquilon plutôt qu'elles ne désiraient de le voir. Mais à peine avaient-elles détourné la vue que toutes s'éteignirent et se changèrent en de noirs charbons. Et voici qu'un tourbillon impétueux s'éleva par la puissance de l'étoile, qui, tout à coup, les lança du midi derrière le trône jusqu'à l'Aquilon pour les précipiter dans l'abîme où il me fut impossible de les revoir. Mais cette grande splendeur qui leur fut ainsi enlevée, je la vis aussitôt après leur anéantissement revenir vers celui qui siégeait sur le trône. Et j'entendis celui qui était assis sur le trône me dire « Écris ce que tu vois et ce que tu entends. » Et j'ai répondu, d'après la connaissance que j'avais de cette vision, « Je vous prie, ô mon Seigneur, de me donner l'intelligence, afin que je puisse reproduire d'une manière convenable ces mystères. Ne m'abandonnez pas, mais confirmez en moi ce que j'entrevois de l'aurore de votre justice dans laquelle s'est manifesté votre Fils, et donnez-moi ce qui m'est nécessaire pour avoir les moyens et le courage d'annoncer votre divin conseil qui se réalise conformément à vos anciens décrets. Vous avez voulu l'incarnation et que votre Fils se fît homme au temps déterminé. Vous avez résolu avant toute créature, dans la simplicité de votre être et sous le feu de la colombe, c'est-à-dire du Saint-Esprit, que votre propre Fils, à son admirable lever comme un soleil, se revêtit véritablement de l'humanité dans celle qui fut à la tête de la virginité et qu'il prit la forme humaine par amour pour l'homme. Et je l'entendis de nouveau me dire « Oh, qu'ils sont beaux, tes yeux, dans ce divin récit où, selon la volonté divine, l'aurore se révèle. » Et j'ai répondu d'après la connaissance que j'avais de cette vision, Il me semble, au fond de mon cœur, que je suis comme la cendre d'une pourriture en poudre, comme une poussière sans consistance. C'est pourquoi je me tiens dans l'ombre, comme caché sous l'aile. Mais ne me rejetez pas de la terre des vivants comme une étrangère, car je travaille avec beaucoup de peine à cette vision. Et même, dans l'humiliation où me plonge l'insuffisance de mes facilités, qui est le propre de ma nature, je me considère souvent au rang le plus bas, comme à la dernière place, parce que je ne suis pas digne d'être compté parmi les hommes, et que je crains extrêmement, dans ma timidité, de raconter vos mystères. Oh, le meilleur et le plus doux des pères, enseignez-moi quelle est votre volonté, ce que je dois dire. Ô vous pères redoutables, mais le plus débonnaire, ô vous qui avez les mains chargées de toutes les grâces, ne m'abandonnez pas, mais conservez-moi dans votre miséricorde. Et je l'entendis encore me dire, « Annonce maintenant ce que tu sais. Je veux que tu parles, quoique tu ne sois que poussière. Dis la révélation du pain, qui est le Fils de Dieu, qui est la vie dans son amour de feu, lui qui ressuscite tous les morts, en corps et en âme, et qui remet les péchés absous dans une clarté sereine. Car il est le principe de la rénovation de la sainteté dans l'homme, avant qu'il le ressuscite en lui-même. C'est pourquoi le Dieu magnifique, glorieux et incompréhensible a donné à l'homme un grand secours en envoyant son Fils dans la pureté de la virginité, qui n'ayant contracté aucune souillure dans sa virginité, n'a jamais perdu sa force. Il ne peut, il ne doit y avoir dans l'esprit de la Vierge aucune tache originelle, parce qu'elle était la meurtrière et la mort même de la mort du genre humain. Oui, la mort fut trompée sans le savoir, comme en un sommeil, lorsque le Fils de Dieu vint au milieu du plus profond silence, dans cette aurore, c'est-à-dire dans une humble vierge. La mort avançait tranquille, ne sachant pas la vie que cette douce vierge portait dans son sein, car sa virginité lui était cachée. Et cette vierge était pauvre des richesses de la terre, parce que la divine majesté l'a voulu prendre en cet état. Écris donc maintenant, touchant la vraie connaissance du Dieu créateur qui se révèle dans sa bonté.